Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, défiance à l'égard des médias, comment remonter la pente? Il fallait s'y attendre. Interroger les Français sur leur confiance dans les médias en pleine crise des Gilets jaunes n'allait pas produire des résultats encourageants pour les journalistes. Le 32e baromètre annuel que publie le journal La Croix ce jeudi en témoigne. La défiance est au plus haut et tous les médias, radio, télé, presse écrite, internet, sont concernés. Mais il serait imprudent de n'y voir qu'un phénomène conjoncturel. Le recul de la confiance s'inscrit dans le temps long. Une tendance de fond sans réponse satisfaisante pour l'instant. Cette rupture entre les journalistes et le public ne tient pas non plus à un moindre intérêt pour l'information, puisque le baromètre de la Croix dit le contraire. Les Français interrogés s'intéressent de plus en plus à l'actualité. Du coup, c'est sur les conditions de production de l'information et sur son contenu qu'il semble nécessaire et urgent de se pencher. Alors, défiance à l'égard des médias, comment remonter la pente? C'est la question que j'ai posée ce soir à quatre invité, à commencer par vous, Guillaume Goubert, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Vous êtes le directeur du journal La Croix. D'habitude, vous co-animez avec moi cette émission pour notre partenariat mensuel. Mais là, vous êtes dans la peau d'un invité, donc pour nous parler de ce 32e baromètre de la confiance des Français dans les médias. Et pour en discuter avec vous, Alice Santhomme, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice exécutive de l'école de journalisme de Sciences Po. Vous avez publié aux presses de Sciences Po, c'était en 2016, le journalisme numérique. Troisième invité, Vincent Giret, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de France Info, une des chaînes du groupe Radio France, première chaîne en France d'information en continu. Je parle là de son historicité puisque vous avez fêté en 2017 le 30e anniversaire de cette chaîne. Je précise par ailleurs, Vincent Giret, que vous êtes passé par la presse écrite, notamment Libération et Le Monde, ce qui vous a peut-être valu de croiser dans les couloirs notre quatrième invité, Anne-Sophie Novel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Vous êtes journaliste indépendante. Journaliste indépendante, en général, ça veut dire, même la plupart du temps, journaliste pigiste. Vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle « Les médias, le monde et moi » qui traite justement de cette défiance envers les médias. Documentaire qu'on ne peut pas encore voir. Vous êtes en attente d'un diffuseur. Ben, j'espère que cette émission vous aidera un petit peu justement à le trouver. Mais je voudrais évidemment qu'avant qu'on examine certaines des solutions, on n'aura pas le temps de toutes les aborder, mais qu'on parte d'abord du constat et du constat qui est tiré dans ce baromètre La Croix, Guillaume Goubert. La tendance est quand même très nette, la défiance gagne du terrain et tous les types de médias sont manifestement concernés.
Oui, tout à fait, avec un décrochage à la baisse cette année qui est assez marqué, puisqu'on a des baisses qui vont de moins 10 en termes de confiance, des baisses qui vont de moins 10 pour la télé, moins 5 pour moins 6 pour la radio, moins 8 pour la presse. C'est une très mauvaise année dans une tendance qui, vous le disiez tout à l'heure, dans une tendance qui est globalement à l'effritement. Alors il y a des variations d'une année à l'autre, un petit peu en fonction de l'actualité. L'année dernière, ça avait un peu remonté. Là, ça chute sèchement, on va dire. Autre élément qui est préoccupant, c'est même si cette année la dégradation n'est pas très marquée en chiffres, mais c'est le jugement sur l'indépendance des journalistes vis-à-vis des pouvoirs, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du pouvoir politique et du pouvoir économique, où on sent bien que la perte de confiance, en gros, est deux tiers des personnes interrogées qui disent que nous ne sommes pas indépendants. Et j'ajouterais, en termes d'analyse plus qualitative, c'est que peut-être il y a 30 ans, c'était l'indépendance des médias eux-mêmes qui posaient question aux Français. Et là, on a l'impression que c'est le manque de confiance dans les journalistes en tant qu'individus exerçant un métier. Et ça c'est très préoccupant et ça s'est matérialisé, hélas, de façon assez violente au cours des dernières semaines.
Alors, dans cette progression de la défiance qui est généralisée, il y en a qui s'en sortent peut-être un petit peu mieux que d'autres. C'est le cas de la radio, c'est-à-dire qui, en termes de confiance, occupe toujours la première position. Ça, il me semble que c'est là aussi une tendance qui est assez, qui s'inscrit sur un temps long. 50% des personnes qui ont été interrogées, je crois que c'est un échantillon d'un millier de personnes, comme la plupart des sondages. 50% de confiance dans la radio, ça c'est plutôt bien, Vincent Giret. Sauf que cette baisse, là aussi, moins 6 points. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude et d'étonnement?
C'est certainement un motif d'inquiétude. 50%, on peut se dire, il y a la bouteille à moitié vide ou la bouteille à moitié pleine. Je considère qu'elle est plutôt à moitié vide. 50%, c'est d'abord ça baisse. Alors on peut se réjouir que la radio, qui est voilà, nos auditeurs le savent bien, qui est un média de l'intimité, de la relation, du lien tout à fait singulier. Mais même ce média-là est abîmé sévèrement par cette crise de défiance. Donc c'est une réflexion qui n'épargne personne. C'est une situation qui n'épargne personne. Et ça, c'est bien évidemment tout à fait préoccupant. On peut même ajouter au constat des chiffres évoqués par le baromètre de la Croix, des éléments précis factuels, par exemple, et ça vaut aussi pour France Culture d'ailleurs, mais c'est la première fois dans l'histoire de Radio France qu'il a fallu ajouter des officiers de sécurité aux reporters qui étaient de la maison, qui étaient de France Info, de France Inter, de France Culture, de France Bleu, qui étaient sur le terrain le samedi en train de couvrir les manifestations des Gilets jaunes. Il y a eu un certain nombre d'incidents, une quarantaine en tout, beaucoup avec d'ailleurs des reporters de France Bleu, donc Paris n'avait pas le monopole de ces incidents, parfois assez sérieux, assez préoccupants, assez graves, et donc on voit bien que quelque chose s'est cassé. Et même avec le journalisme local, c'est-à-dire qu'on pouvait penser que les auditeurs, par exemple, de France Bleu ou les lecteurs d'un journal de presse quotidienne, ces lecteurs voient les journalistes de la radio ou du média en question à la boulangerie, à la sortie des écoles, au supermarché, etc. Et bien même là où le lien physique existe, où ce n'est pas un lien virtuel, et bien quelque chose s'est cassé. Ce qui dit bien la profondeur de la crise de défiance qui nous occupe.
Alors on savait qu'être journaliste sur une zone de guerre, c'est quelque chose qui peut évidemment s'avérer dangereux, mais cette individualisation de la défiance avec certains actes de violence qui sont apparus à la faveur de cette crise des Gilets jaunes, Alice Antom, j'imagine que ça pose de nouvelles questions pour quelqu'un comme vous qui dirige une école de journalisme, c'est-à-dire qui forme les futurs journalistes.
C'est sûr qu'on a une énorme responsabilité, hein, à la fois vis-à-vis de nos élèves qui ont choisi ce métier et qui veulent l'exercer dans les meilleures conditions possibles, mais surtout vis-à-vis des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs que demain nos élèves vont informer. On a un gros travail à faire et c'est vrai qu'on n'est pas dans les médias en général les plus enclins à faire de l'autocritique et je nous mets dedans, les écoles de journalisme aussi, on a du mal parfois à revoir les choses, mais la partie positive, je dirais, de toute cette affaire, c'est que finalement, ça nous oblige à nous recentrer sur des choses qu'on a pu parfois un peu négliger, qui sont, je vais être pas très originale, mais l'appétence pour le terrain, le reportage, le temps que l'on peut consacrer à ça, et la connexion, on nous reproche hein, d'être déconnecté de la réalité des différents territoires, et sans doute que c'est un peu le cas. On a une énorme concentration des médias à Paris, à part les France Bleu, les France 3 Régions, on a guère de choses à part des pure players qui existent sur certaines métropoles ou localités, mais ça reste assez faible.
Il y a quand même la PQR, la presse quotidienne régionale.
Oui, il y a la PQR, mais elle n'est pas, elle fait l'objet des mêmes critiques hein, que ce que l'on voit sur les médias parisiens. En tout cas, nous, notre réponse, c'est de se dire, essayons de voir les choses de façon positive, beaucoup plus de terrain, beaucoup plus de reportages, une surveillance, enfin je ne devrais pas dire ça, une écoute, on va dire, des conversations en ligne, et notamment sur Facebook, pas sur Twitter qui est le réseau des politiques et des journalistes, mais sur Facebook, c'est là que ça se passe, et en effet, c'est une façon d'être mieux connecté à la réalité de la population. Et puis évidemment, je rajoute que dans la diversité et de la formation, et du recrutement, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu ce point.
On développera.
On puisse effectivement changer la façon dont les journalistes de demain exerceront leur métier.
Alors le terrain, vous y êtes allé justement, vous, Anne-Sophie Novel, pour enquêter sur cette défiance de la population à l'égard des médias. Vous êtes allé voir les anglo-saxons pour voir quelles étaient les initiatives qui existaient. Enfin, les anglo-saxons, pas seulement, mais enfin notamment. Mais pour rester peut-être sur le terrain du constat pour l'instant, vous avez aussi fait des marchés, vous avez monté un petit stand où vous proposez des journaux. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait France Culture Papier, on voit ça sur un plan, c'est assez subreptice, mais enfin bon, on le voit, merci beaucoup. Et vous discutez avec les gens, et ce que dit le baromètre de la Croix, vous l'avez, vous, entendu de manière plus empirique sans doute, mais dans la bouche de la plupart des gens avec qui vous avez discuté.
Oui, complètement. En fait, ce stand était fait pour interpeller. Donc je me suis pris des vents, des gens qui ne s'arrêtaient pas, qui me regardaient de travers. Et ceux qui ont pris le temps de venir, j'ai pu les interroger en leur disant « Mais comment vous informez-vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi vous n'aimez plus le travail journalistique ?» Et les réponses sont souvent sidérantes. Donc sur deux personnes qui vont me dire « Mais les journalistes sont importants », il y en avait huit autres qui me disaient « Ben moi je m'informe plus, l'information est trop anxiogène, ils sont tous pareils, ils font du sensationnalisme ». C'est du copier-coller, c'est quoi la bonne information? Mes fils s'informent sur BFM TV, mais ça nous mène à quoi? Enfin, c'est ce type de propos où j'en ai joué un petit peu en disant est-ce que tous les médias racontent des salades? Est-ce que toute la presse écrite est une feuille de chou? J'ai pris à partie ce ressenti pour rebondir dessus et essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on voit et montrer que et journalistes et public ont un effort à faire pour retirer. C'est un lien de confiance.
Alors restons justement un instant sur cette nature anxiogène de l'information, parce que c'est vrai que ça ressort beaucoup dans les témoignages que vous évoquez. Et puis c'est aussi quelque chose qui ressort du baromètre Lacroix. Est-ce que ça veut dire, Anne-Sophie Novel, que ce que les gens demandent, c'est de l'information positive? Vous connaissez tous évidemment la phrase que tous les journalistes connaissent, mais il n'y a pas que les journalistes d'ailleurs qui la connaissent, c'est que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Est-ce que les gens demandent des informations dans lesquelles les trains arrivent aussi à l'heure, Anne-Sophie Novel?
Je ne suis pas sûre qu'un média qui ne raconte que du positif fonctionne. Ça a souvent été évoqué. Le problème n'est pas là, à mon sens. Je pense qu'on est dans un monde qui s'est énormément complexifié et que cela a bousculé nombre de professions, dont le journalisme, qui a été un des premiers à être touché, notamment avec l'arrivée du numérique, mais que ça doit nous imposer de changer un peu notre posture. Donc, il ne s'agit pas de dire « cessons de traiter des problèmes du monde », mais il est important d'investiguer plus loin. Donc ça veut dire, quand on enquête sur ce qui ne va pas, il est important aussi, quand c'est possible, d'enquêter avec rigueur sur ce qu'il est possible de faire pour y répondre. Beaucoup de personnes témoignent de la sensation d'être plombées par l'information et surtout de ne pas avoir d'issue par rapport à ça. Et peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir d'un point de vue éditorial. Et je pense que là, c'est une des pistes sur laquelle on peut discuter.
Alors que pensez-vous, les uns et les autres, justement autour de cette table, de ces pistes? Guillaume Goubert, je commence par vous.
Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à la Croix et ça nous réussit pas si mal. Cela dit... Je rejoins Anne-Sophie pour dire que un journal où il n'y aurait que des bonnes nouvelles ne serait pas un bon journal, ne serait pas un journal, j'allais dire honnête. C'est pas une question de morale, mais c'est que ça ne serait pas une bonne offre d'information au public. Je veux dire, dans l'actualité, il y a des très belles choses et il y a des choses très préoccupantes. C'est vrai que le rôle des journalistes, c'est d'apporter les nouvelles, ce qui est nouveau. Généralement, ce qui est nouveau, c'est ce qui crée une rupture. Donc souvent, ce sont des événements dramatiques et pour continuer dans les adages, une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Nous, à la Croix, c'est vrai qu'on essaie de faire attention aux arbres qui poussent, mais ça demande une volonté considérable parce que tous les jours, il y a toutes sortes d'événements dramatiques qui interviennent. On a posé dans le sondage une série de questions sur le traitement de la crise des Gilets jaunes. Une des choses intéressantes qui ressort, alors d'abord, c'est la grande majorité de l'échantillon s'inscrit en faux, dénonce l'agressivité vis-à-vis des journalistes. Elle la trouve extrêmement critiquable. Donc ça, c'est plutôt réconfortant.
Il y en a quand même 23% qui trouvent
oui,
ça
juste. Oui, il y en a quand même 23% moins net que ce que vous affirmez, Guillaume.
39% disent que c'est pas vraiment justifié.
Oui,
pas vraiment justifié.
Il n'y a que 32% qui condamnent, si j'ai bien lu. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais il n'y a que 32%, me semble-t-il. Moi, j'étais assez effaré par ce chiffre, 32% seulement des Français qui condamnent clairement les violences à l'égard des journalistes.
Et 23% qui les trouvent justifiées, plus ou moins.
Oui, tout à fait.
C'est
mon optimisme naturel.
C'est la Croix.
C'est sympathique, justement. C'est en positif.
Voilà, j'ai voulu voir le bon côté de la chose. Ce qui est intéressant dans les questions qu'on a posées sur ce sujet, c'est que les personnes interrogées, une large majorité, trouvent que les médias ont donné la parole à des personnes qu'on ne voit pas d'habitude à la télévision. Ils trouvent ça très bien. Ils trouvent que, en large majorité, deux tiers, que les médias ont trop dramatisé l'événement et qu'ils ont laissé trop de place à des personnes qui exprime un point de vue extrême. Donc ça, c'est intéressant, c'est que c'est des modes de traitement qui sont discutés. Et là-dessus, je pense que notre profession ferait bien de réfléchir.
Alors, est-ce que ces reproches vous paraissent justifiés, Vincent Giray ? Et est-ce que ça n'est pas presque une forme d'obligation ? C'est-à-dire, dans un paysage où de l'information qui est extrêmement concurrentielle, la nécessité, je ne sais pas si c'est si nécessaire que c'est, mais en tout cas, d'aller chercher des personnages plus spectaculaires, plus clivants, parce qu'il faut justement se distinguer de la concurrence. C'est une tentation, en tout cas, j'imagine, qui existe quand on est une chaîne d'information.
C'est une tentation, bien évidemment. La radio et la télévision ne sont pas tout à fait sur le même registre, mais enfin, soyons clairs, le métier de France Info Radio, c'est le breaking news. C'est effectivement l'événement, l'édition spéciale, et donc, effectivement, on va, à un moment donné, se polariser sur une actualité, sur une rupture, sur un arbre qui tombe, pour reprendre votre jolie métaphore. La question qui s'est posée là est quand même assez singulière, parce que si on est tout à fait honnête, cet événement, personne l'a complètement vu surgir. Il a pris des formes diverses, on réagissait, on a ajusté, je pense, les uns et les autres, et je pense aux chaînes de télé, au fil du temps, leur dispositif, leur mode de traitement. Mais il y a eu un temps où l'accusation me semble tout à fait justifiée, et j'entends pleinement ce qui ressort du sondage là-dessus, c'est que des chaînes d'informations ont donné à entendre et à voir une partie assez extrême du mouvement. Et en face, en plateau, très souvent, vous aviez des experts qui disaient quand même, les gilets jaunes posent des questions tout à fait légitimes. Le pouvoir d'achat des classes moyennes inférieures, pour le dire vite, c'est quand même un sujet. Ce sont des gens qui bossent. Et puis la question des distances, etc., etc. Bon, et ce qui fait que vous aviez des gilets jaunes et dont la partie peut-être la plus radicale était visible, vous aviez ces experts qui semblaient plutôt dire bah oui, il y a quand même des vrais sujets, etc. Et du coup, il manquait, en tout cas pendant la première phase, une parole un peu dissonante, contradictoire, et il y a eu, je crois que c'est un mot d'Olivier Schramek, une sorte de silence d'intimidation. Olivier Schramek est le président du CSA, qui d'ailleurs vient de partir. Et un silence d'intimidation, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné, sur les différentes antennes, une sorte de politiquement correct aussi. On ne pouvait pas dire du mal des gilets jaunes, il ne fallait pas attaquer les gilets jaunes, on a mis peut-être un peu de temps avant de dire, il y a quand même une frange extrémiste qui pose problème, et là, on ne peut pas laisser dire ça. Voilà, il y a eu un temps qui a été difficile à couvrir.
Allez, Santom.
Oui, il y a quand même plusieurs problèmes qui se sont posés aux journalistes à l'occasion, notamment des premières semaines de ces manifestations. La première chose, c'est que ça a été très difficile pour les journalistes de couvrir ces événements parce qu'il n'y a pas de porte-parole là, parce que c'est un mouvement qui est déstructuré. Et c'est vrai qu'un peu bêtement, les journalistes, ils ont toujours été habitués à avoir le porte-parole, la personne qui, en effet, qu'ils peuvent interroger et qui va représenter l'ensemble du mouvement. Là, on n'avait pas du tout ça. Donc ça sous-entendait aller chercher des personnages qui ne se portaient pas comme responsable du mouvement, mais qu'elle ait raconté leur vécu. Quand vous écoutez
mais
une
ça,
émission...
vous considérez que c'est quelque chose qui est spécifique justement à ce mouvement des gilets jaunes ? Est-ce que c'est pas un problème plus profond justement que d'aller chercher de toute manière, que ce soit pour les gilets jaunes ou pour d'autres sujets, peut-être les personnages les plus extrêmes et les informations les plus anxiogènes ?
Mais c'est parce qu'on savait pas à qui parler. Je pense que la plupart des journalistes se sont tournés un peu de façon trop rapide et trop facile auprès de ceux qui parlaient plus fort et qui donc tenaient des propos extrêmement radicaux et polarisés, ce qui était une faute. Et donc en effet, il fallait travailler sur ce mouvement d'une façon complètement différente, en ne se référant pas à des porte-paroles qui n'existaient pas, et en étant sur quelque chose de très transversal. Ça sous-entendait en effet aller chercher les personnes qui ont du vécu, qui ne veulent pas représenter la globalité, mais qui ont chacun une histoire à raconter. Et le dernier point que je voulais ajouter par rapport à ce que disait Vincent sur les experts, c'est vrai qu'on voit, et moi je vais reprendre une citation du directeur du centre d'histoire de Sciences Po qui s'appelle Marc Lazare, et que j'ai vu hier, il dit « L'expertise aujourd'hui c'est considéré comme une forme de domination. » Et notamment dans ces manifestations, par les manifestants qui ont pu être dans les rues, c'est vraiment, on était d'autant plus décalés qu'en plateau on avait ces experts, et de l'autre côté on avait ces journalistes qui cherchaient à corps perdu des porte-paroles qui n'existaient pas.
Mais ça vient d'où finalement finalement ce phénomène que vous décrivez. C'est-à-dire, est-ce que ça vient d'un manque ou d'une mauvaise, comment dire, de mauvais réflexe des journalistes, ou ça vient de problèmes peut-être plus structurels qui seraient liés aux conditions aussi de production de l'information aujourd'hui? C'est-à-dire, je reviens quand même à cette idée de vitesse. Elle est évidente pour les chaînes d'information en continu, mais elle se pose, me semble-t-il, à l'ensemble des rédactions aujourd'hui, y compris pour La Croix, y compris pour France Culture. C'est-à-dire que la nécessité quand même d'aller vite et de ne pas passer à côté de quelque chose que feraient les autres confrères pousse presque à avoir ce genre de réflexe. Qu'en pensez-vous, Anne-Sophie Nouvel?
Mais j'en pense que l'horizontalité du mouvement des Gilets jaunes, en fait, représente l'horizontalité d'une société, que je disais, plus complexe tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde s'exprime maintenant. Le fait que la défiance qui s'exprimait à l'égard des médias en général se soit déplacée sur les journalistes est à cette image. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut devenir média et que les journalistes sont pris à partie parce que beaucoup estiment qu'il y a des vides médiatiques. C'est-à-dire cette tendance à chercher des personnages, des personnes qui vont rentrer dans un format désiré, fait qu'on ne va peut-être pas aller faire comme Florence Aubenas, passer une semaine sur un rond-point et se rendre compte que les gens qui s'expriment là, on avait marre d'être derrière leur télé et de ne pas se sentir représentés. Et donc, ils ont envie de casser ce qui ne les représente pas. Enfin, moi, je l'analyse un petit peu comme ça. Il y a encore beaucoup à dire, mais je pense
que... Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, Anne-Sophie Nouvel, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais je vais poser la même question à tout le monde, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire qu'il faut faire davantage de terrain pour donner la parole à ces personnes-là, ou bien est-ce qu'il faut aller encore un peu plus loin dans la mesure où vous dites aujourd'hui les journalistes ne sont pas les seuls à détenir le monopole de la production de l'information, d'essayer de coproduire peut-être aussi l'information avec des personnes qui ne sont pas elles-mêmes journalistes?
Oui, je le pense. Et dans le film, on a été voir Nice Matin. Alors Nice Matin, c'est la presse quotidienne régionale qui, dans son édition numérique, a essayé de changer son approche. En 3 ans, leur nombre d'abonnés a été multiplié par 9. C'est-à-dire que depuis 2015, ils ont changé leur façon de faire, leur ligne éditoriale. Ils ont mis en place un certain nombre de mesures. Et il y en a une qui nous a interpellés, c'est que après chaque conférence de rédaction, ils retiennent 3 sujets qu'ils soumettent à leurs abonnés. Et les abonnés s'expriment pour choisir un sujet qui sera l'objet du traitement d'un dossier. Et pendant 2 ans, les journalistes pariaient toujours sur le mauvais cheval. C'est-à-dire que le sujet qui ressortait n'était pas du tout celui sur lequel ils avaient parié. Et ils ont beaucoup appris de cette expérience. Et il y a plein d'autres journaux qui ont ce type de tentative aujourd'hui. Mais là où les lecteurs qu'on a été rencontrés disaient, avant, Nice Matin, pour nous, c'était Nice Menteur, c'était une petite feuille de chou, maintenant, on le sent plus proche, c'est presque quelqu'un qui appartient à la famille. Et ça, c'est fort quand on entend ça, parce que ça veut dire que le journal est en train d'essayer de recréer quelque chose, un sentiment d'appartenance, et ce type de sentiment d'appartenance est crucial, à mon avis, pour construire aussi le monde de demain.
Vincent Giray, directeur de France Info, quelle est la place des auditeurs de France Info, le circuit de production de l'information?
L'exemple de Nice Matin est formidable, hein, je le connais, et c'est vrai que c'est une innovation, c'est une tentative, une expérimentation qui a donné des résultats tout à fait intéressants. Dans une crise générale de la presse écrite, le fait que tout d'un coup on augmente le nombre d'abonnés avec un système un peu participatif, alors c'est pas 100% des sujets, hein, c'est 3 sujets par jour, comme Anne-Sophie l'a dit, mais c'est un signal qui est intéressant. Et en fait, ce que ça pointe, je crois, c'est que nous avons tardé à élargir, à enrichir la relation, la conversation avec nos audiences, que ce soit des lecteurs, que ce soit des auditeurs ou des téléspectateurs ou les internautes.
Et cette conversation, elle existe comment à France Info, par exemple?
Alors cette conversation, c'est une bonne question. Si on se dit la vérité, elle existe assez peu. Elle existe sur le numérique, bien évidemment, où là en plus France Info est premier ou deuxième site en France, donc il y a une puissance de qui est très importante. Donc il y a un live, il y a les internautes peuvent intervenir, poser des questions, réagir, etc. Mais par exemple sur l'antenne de France Info, je crois que ça vaut pour d'autres antennes de Radio France, mais parlons de France Info. Nous avons une médiatrice qui fait un travail tout à fait intéressant, tout à fait rigoureux, donc qui une fois par semaine pendant 5 6 minutes, nous fait part à l'antenne des questions principales des auditeurs et nous efforçons d'y répondre. Bon, mais vous voyez bien que...
Mais ce sont des réactions, ce ne sont pas forcément des propositions.
D'une part, ce sont
de
des réactions et on voit bien que ça n'est pas du tout aujourd'hui à la hauteur de la situation, qu'il faut voir beaucoup plus grand. Il faut ouvrir nos rédactions, il faut travailler différemment. Alice insistait sur l'importance du reportage, c'est une évidence. On a en plus des équipes, nous, ici, très expérimentées de reporters. Il y a eu le cas de Florence Omnas, mais heureusement, il n'y a pas que Florence. Il y a bien d'autres reporters de Radio France, notamment, qui, et certainement à La Croix aussi, qui ont passé des semaines sur les ronds-points. C'est extrêmement important. Et coller au terrain est l'une des réponses, bien évidemment. Ensuite, faire participer, je réponds juste là-dessus sur la question des auditeurs. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout à France Info. On a ouvert pendant une semaine le soir, de 21h à minuit, l'antenne aux auditeurs, et on a entendu des moments de vie absolument poignants, formidables.
Guillaume Goubert, dans La Croix, il y a le courrier des lecteurs, mais est-ce que ça va un peu plus loin? Est-ce que certains lecteurs peuvent, par exemple, vous suggérer des idées de
oui,
reportage
bien sûr,
que
sûr.
Vous retenez, voire peut-être participer de manière un peu plus active, justement, à l'élaboration du journal?
On a fait déjà un bon bout du chemin, je dirais, parce qu'on reçoit à peu près 15 000 messages par an. C'est évident pour ceux qui sont chargés de lire ce courrier, dont je fais partie. Il y a une équipe de 3 personnes qui réceptionnent le courrier, qui hiérarchise, qui aiguille un peu les choses. Donc je prends connaissance d'une grande partie, et c'est vrai que c'est l'expression n'est pas forcément très très jolie, mais c'est un palpeur extraordinaire de l'humeur de notre public, de ses réactions, de comment tel événement le fait réagir. Ça nous permet très souvent, là c'est l'avantage d'être quotidien et un site internet, c'est qu'on peut ajuster les choses très vite par rapport au magazine par exemple, c'est-à-dire que quand on sent que on a été mal compris sur un sujet, de pouvoir tout de suite... Et effectivement, ça nous donne souvent des idées de sujets même. Et souvent, ce sont des interlocuteurs, parce qu'on les contacte en disant « Mais ce que vous nous avez raconté dans ce courrier, ça nous intéresse beaucoup. Est-ce que vous accepteriez d'en parler dans le journal ?» etc.
Mais donc, ça peut être aussi un risque, d'ailleurs, non, de se dire, si on tient compte à ce point, peut-être, de la vie des lecteurs, par exemple, on va aussi peut-être être tenté de ne pas leur déplaire, c'est-à-dire de leur proposer que les sujets dont on imagine qu'ils vont les intéresser.
Oui, il y a ce risque. Moi, je le vois autrement, c'est que ça me confirme dans l'idée que dans La Croix, on peut parler absolument de tout, mais qu'il y a une manière d'en parler. Pour certains sujets, on en parlera avec certaines précautions d'usage. Si vous prenez un exemple qui n'est pas un exemple très polémique, on a un lectorat dans lequel il y a pas mal de retraités. Si on veut expliquer aux retraités les problèmes que pose aujourd'hui le financement des retraites, il faut pas écrire d'une manière qui leur laisse penser qu'on considère qu'ils veulent l'argent qu'ils touchent tous les mois. C'est aussi simple que ça, mais on peut leur expliquer quand même cela, et nous le faisons régulièrement, et ça ne nous vaut pas déborder d'injures.
Alice Anton, directrice de l'école de journalisme de Sciences Po, est-ce que c'est quelque chose que vous dites à vos étudiants, qu'aujourd'hui, la situation a changé par rapport à nous qui sommes autour de cette table, que je ne sais pas si tout le monde a fait une école de journalisme, enfin en tout cas, à mon époque, il n'était pas question de se dire on va partager la production de l'information avec des gens qui ne sont pas journalistes. Aujourd'hui,
oui,
manifestement, c'est le cas.
Évidemment, non, mais même ça
c'est
serait...
pas facile d'accepter justement cette idée qu'on n'est plus les seuls à être à l'origine de l'information.
Bah, ça dépend. Si vous le mettez dans l'ADN et dans la promesse de la formation dès le départ, les élèves postulent justement pour cette promesse. Nous, c'est vrai qu'il nous semble que, de toute façon, c'est obligatoire pour chacun de nos élèves de participer à cette conversation en ligne. On ne peut pas s'en extraire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, je le disais, sur Facebook notamment, qui est un réseau qui est le plus populaire en France. Il y a quand même plus de la moitié de la population qui s'y trouve et qui parle tous les jours des sujets de son quotidien. Et c'est vrai que par rapport à ce que Vincent dit, pour nous, c'est pas réservé à une médiatrice, si vous voulez. Chaque journaliste doit avoir dans son temps de présence ou son temps de travail un minimum de 3 heures ou 2-3 heures par jour dévolu à cette écoute en ligne et à quand il se fait interpeller, il doit y répondre. Et c'est pas l'objet pour nous d'une case une fois par semaine qui serait traitée par une médiatrice. C'est vraiment le lot de chacun individuellement. Et ça, c'est très important, je trouve, dans la façon de faire du journalisme aujourd'hui. Il faut pas que ça soit un service à part qui s'occupe de ça. C'est vraiment le fait de chaque journaliste que de s'occuper de à qui il s'adresse, de comment ses lecteurs réagissent et comment ses non-lecteurs aussi pourraient éventuellement réagir et comment il peut mieux les écouter pour s'adresser à eux. Et ça, vraiment, c'est le lot de chacun.
Ça signifie aussi qu'il faut peut-être accepter de descendre par moment un peu de son, si ce n'est de son piédestal, mais enfin en tout cas de quelques marches. J'imagine que c'est pas facile à faire accepter à l'ensemble de la profession, Vincent Géré.
Non, certainement. Enfin, en tout cas, il faut chacun a bien conscience quand même que le moment est grave. Il y a quand même un momentum sur l'information là qui est particulièrement préoccupant. Pour juste prendre l'exemple de France Info, dès le retour des fêtes de Noël. En fait, je l'ai proposé, mais si je ne l'avais pas proposé, je pense que ça serait fait quand même. La rédaction a eu envie de se saisir du sujet en disant là, il y a une situation qui est grave, on doit réfléchir collectivement. Et donc là, ils sont en train de travailler, on aura une restitution à toute la rédaction. Il y a 4 journalistes qui ont été choisis pour synthétiser les travaux, les réflexions, l'animer, etc. Je ne sais pas ce qui se dit en ce moment,
mais
ça sera restitué devant toute la rédaction au début du mois de février. On sait que c'est quelque chose qu'on va devoir développer. Si vous voulez, les deux dimensions qu'on évoquait là, il y a un journalisme de résilience, parce qu'on sent bien que on va, pardonnez-moi la facilité de langage, mais on va habiter avec cette situation pendant longtemps. C'est pas, il y a un avant et un après. Les États-Unis ont eu un momentum au moment de l'élection présidentielle et de la victoire de Trump. Nous avons nous-mêmes notre momentum en ce moment, quelque chose de singulier avec un flot de défiance et un flot de désinformation, une nouvelle situation d'exercice du métier aujourd'hui. C'est ça qu'il nous faut travailler. On doit un journaliste de résilience et un journaliste de la relation, de la conversation. Je souscris 100% à ce que Alice a dit. Nous devons tous passer du temps aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour comprendre, pour écouter, pour décrypter.
Mais pour que cette relation elle puisse exister, ça veut dire qu'elle... C'est plus facile en tout cas de la faire vivre si on a une approche, disons, un peu réduite géographiquement, par exemple. C'est-à-dire c'est peut-être plus facile quand on est une communauté de lecteurs ou d'auditeurs que l'on peut facilement rencontrer, plus que quand on est dans un média de masse. Ça, justement, Anne-Sophie Nouvelle, c'est aussi une des questions que vous posez dans votre documentaire. C'est-à-dire il y a un certain nombre d'initiatives qui existent où des médias participatifs se sont créés, où donc ils ont vraiment... Des échanges très réguliers avec leur public, mais avec le risque quand même d'être presque, comment dire, taxé de communautarisme, en tout cas de travailler en cercle fermé et de ne créer que des petites communautés les unes à côté des autres, mais qui ne répondent pas vraiment au problème global qui est posé aujourd'hui.
Eh ben oui, c'est ça. Moi, j'ai plus de questions que de réponses en ayant fini mon enquête, mais justement, ça prouve que c'est un objet de débat et que c'est vivant. Et en effet, il y a des médias qui réussissent. Alors, le plus connu dont on parle énormément en ce moment, c'est The Correspondent aux Pays-Bas, qui a 60 000 abonnés dans ce pays et qui s'est lancé avant Noël à l'international et qui a réussi à agréger, je crois, plus de 45 000 abonnés et à lever 2,6 millions de dollars. Et leur principe, c'est de dire on est complètement indépendant. Nos journalistes assument d'être subjectifs, d'expliquer quel est leur point de départ. On ne veut pas... leur slogan, c'est « unbreaking news ». Ça veut dire on veut sortir du « break news », de l'actualité brûlante, sensationnelle. On préfère parler du climat plutôt que de parler de la météo. Ils ont un positionnement très clair, très proche des lecteurs. Après, c'est vrai que ça pose des questions, mais on a d'autres modèles en France. Hein. Mais avoir une communauté si proche, c'est le jour où on raconte quelque chose qui va à l'encontre des attentes de la communauté, ça peut poser problème autant que, voilà, donc c'est les bulles dont on parle, c'est aussi bien les bulles dont on dépend avec les algorithmes qui font sur les réseaux sociaux, ben plus on partage du contenu sur un sujet, ben plus on va recevoir du contenu sur le même sujet. Ben, quand on recrée des communautés autour d'un média, ben, ça pose aussi d'autres problèmes. Il n'y a pas une solution parfaite, mais en tout cas il y a des postures qui peuvent être tentées et ces expériences-là sont utiles aujourd'hui et nécessaires.
Alors tous les jours, nous, on poste notre sujet de débat du soir sur Twitter. Je vous rappelle la question, hein, défiance à l'égard des médias, comment remonter la pente? Et il y a un internaute qui nous répond, comment remonter la pente? En relisant la charte de Munich et en la respectant. La charte de Munich, c'est la charte qui fait référence en matière de déontologie des journalistes. Elle a été alors plus ou moins adaptée après en fonction des pays. Mais enfin, on va dire, voilà, ce sont les tables de la loi de la déontologie journalistique. Est-ce que, déjà peut-être commencer par ça, c'est-à-dire relire, je ne sais pas si vous le faites d'ailleurs, si vous la prenez en école de journalisme,
Oui, ça fait partie des premières choses que
l'on enseigne. Parce que si on la respecte, ça règle peut-être déjà une partie du problème, non ?
Oui, ça pourrait. De toute façon, quand on a une carte de presse, on est censé la respecter. Il y a un point aussi, au-delà de la charte, c'est le recrutement des étudiants. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais c'est très important. Et vous savez que quand on est une école de journalisme, on essaye de recruter des futurs journalistes qui pourraient être à l'image de la diversité de la population française. Alors, quand j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Mais juste concrètement, dans les statistiques que je peux vous donner, nous, on recrute entre 35% et 44% cette année d'étudiants boursiers. Ça veut dire que ce sont des gens qui, peut-être, ne pensaient pas qu'ils pourraient étudier à Sciences Po, qui n'ont pas forcément eu des facilités dans leur vie, même en termes d'éducation, il n'y avait pas forcément de livres chez eux, mais qui pourtant racontent des formidables histoires, savent raconter les histoires des gens, trouver des témoins, aussi sur des terrains et des milieux qui ne sont pas forcément si faciles à couvrir. Et je pense que voilà, on a aussi un effort à faire dans le recrutement dans les rédactions pour qu'on soit à l'image, effectivement, de la société française.
Guillaume Goubert, et sur cette concordance, disons, entre ce qu'est le public et ce que sont les journalistes, et aussi sur les questions de déontologie, parce que je voudrais rajouter que le ministre de la Culture, Franck Riester, a remis sur la table une idée qui date déjà un petit peu, mais d'un conseil de déontologie de la presse qui permettrait aussi aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs d'avoir un endroit vers lequel se tourner, c'est-à-dire pas uniquement les médiateurs. Il y a la médiatrice de Radio France dont nous parlait tout à l'heure, Vincent Giret, Manuel Davier, vous pouvez d'ailleurs lui écrire après cette émission si vous souhaitez, mais ce serait voilà quelque chose qui engloberait la profession.
Alors sur la question de la diversité des rédactions, je pense que c'est, et je le dis en tant que directeur de rédaction, c'est un vrai sujet sur lequel on n'a sans doute pas suffisamment réfléchi, ni à la Croix, ni ailleurs, sur de prendre conscience de notre homogénéité sociale, culturel, intellectuel, de notre trop grand parisianisme, pas au sens du snobisme, mais au fait simplement de vivre dans cette ville qui est assez particulière, où la vie n'est pas facile d'ailleurs, hein, j'en profite pour le dire, parce que on a l'impression parfois quand on écoute certains protestataires de ces dernières semaines que Paris est une sorte de ville confortable et paradisiaque. Non, c'est une ville où la vie est relativement dure, de même que j'en profite pour dire que beaucoup de journalistes connaissent des situations de précarité qui sont très préoccupantes.
Peut-être qu'il faut aller en dehors des écoles pour aller recruter les nouveaux journalistes.
Oui, mais il y a déjà des filières qui existent et dont il faut servir, notamment celle de l'apprentissage. Nous, on a recruté des journalistes de cette manière-là ces dernières années, dont on est extrêmement content. Et ça nous donne davantage d'antennes, ça nous donne davantage de liens, je dirais, capillaires avec le reste de la France. Sur la question déontologique, moi, je pense effectivement que avancer, se remettre en mémoire, retravailler nos chartes déontologiques, nous-mêmes, nous avons pour la Croix, notre propre déclinaison du texte de Munich. On l'a retravaillé il y a 2 ans à peu près. Donc voilà, c'est des sujets qu'il faut remettre sur le métier régulièrement. Mais j'ajouterais quelque chose, c'est qu'il faut aussi que le public connaisse ces règles. Je pense qu'aujourd'hui, une des difficultés, c'est que les techniques qu'utilisent les journalistes dans leur travail, qui sont des techniques légitimes, qui sont des techniques honnêtes, sont très mal connues du public et peuvent, par exemple, nous, on estime que quand on monte des propos, quand on fait du montage, on essaie de le faire avec beaucoup de scrupules, avec beaucoup de respect de l'équilibre des propos qu'on a entendus, etc. Et souvent, nos interlocuteurs ont le sentiment qu'on les a trahis, alors que simplement, on a utilisé des techniques pour être plus synthétique, plus représentatif, etc. Et tout ça, il faut l'expliquer au public. Ce sont des techniques que finalement, ils ne connaissent pas.
Vincent Giret.
La diversité, plus que jamais, ça je souscris à ce qui a déjà été dit. La charte, je crois que c'est utile. Les chartes, nous on a une charte à France Info qui est très exigeante, qu'on a écrite, d'ailleurs que la rédaction a en participé, a été co-rédactrice, j'allais dire, de cette charte. Elle est exigeante parce qu'elle défend d'abord une neutralité sur les réseaux sociaux, qui est un sujet assez sensible. Nous sommes un média de service public, d'information en continu.
C'est-à-dire quand on est journaliste à France Info, on ne donne pas son avis sur les réseaux sociaux?
Oui, c'est-à-dire que si vous écrivez... Je prends un exemple, voilà, vous défendez par exemple, prenons un sujet sensible, clivant, la GPA, c'est une cause qui est tout à fait défendable, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Sauf que si vous écrivez en même temps et vous couvrez aussi cette actualité, alors il y a un problème pour une chaîne comme France Info. Ensuite, à côté de cette charte, c'est transcrit en même temps de façon très exigeante dans la charte, nous avons créé une agence de certification de l'information, qui signifie qu'il n'y a pas de conditionnel sur notre antenne, que nous retenons l'information publiée par d'autres médias, sur des sujets sensibles quand nous n'avons pas nous-mêmes fait un travail de vérification. Bref, on retient le temps là aussi. Vous parliez de rapidité, de pas se laisser emporter par une spirale folle de surenchère par rapport à un événement. Eh bien, sur un certain nombre de sujets, il est important de ralentir, de vérifier, de prendre son temps, de ne pas courir après les autres et de définir dans ses chartes, dans ses pratiques professionnelles, des choses qu'il faut faire savoir. Guillaume a raison, je crois qu'il faut être transparent aussi sur nos façons de travailler. Il n'y a pas de, dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en une heure, il n'y a pas de solution magique. Hein. Il y a beaucoup d'humilité, y compris dans ce que disait Anne-Sophie, que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure dans son dernier témoignage. Simplement, on doit faire feu de tout bois et poser des petites digues pour reconstruire de la confiance.
Voilà, puisque vous évoquez Anne-Sophie Novel, et ben on espère, enfin moi j'espère en tout cas, que son documentaire Le Monde, les médias oui. et moi sera disponible. Oui, juste d'un mot.
Je peux juste préciser quelque chose, il sera en ligne sur Docs TV à partir de lundi, et en effet on attend encore des réponses de diffuseurs, et il sera aussi en DVD et en projection dans les salles à partir du printemps.
Voilà une précision qui était nécessaire. Merci beaucoup à tous les quatre, Anne-Sophie Novel, Guillaume Goubert, Vincent Giret et Alice Antome. On retrouve donc ce 32e baromètre annuel de la confiance dans les médias. Je devrais plutôt l'appeler désormais le baromètre annuel de la défiance.
Mais non.
C'est toujours le côté positif de Guillaume Goubert. Merci également à nos camarades de France Bleu Gironde à Bordeaux pour le duplex et à l'équipe du Grand, bien sûr, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Peyre et Legras avec à la prise de son aujourd'hui à Paris, Clément Daté.